Donc Pierre, je travaille à la CIMAD à Toulouse. Je vais vous présenter assez rapidement la CIMAD et ses actions, avant d'élargir un peu pour laisser la parole à Momo. Je vais faire un bref historique parce qu'il me semble que c'est important de comprendre comment s'est créée la CIMAD et pourquoi elle s'est créée. Pour mieux comprendre comment on intervient aujourd'hui, y compris pourquoi on intervient encore, par exemple, dans des centres de rétention, alors qu'il s'agit aujourd'hui d'un marché public des droits de l'homme. Et ça me paraît important de préciser cela. Je vous rassure, je vais prendre un peu de temps sur cette période de création, et je ferai un gros saut dans le temps pour éviter d'être trop long. La CIMAD, c'est une association qui se crée en 1939, donc dans un contexte que vous imaginez. Et elle se crée, au départ, c'est une association qui va intervenir pour des raisons exclusivement religieuses, c'est-à-dire que c'est des mouvements de jeunesse protestants qui vont s'unir pour intervenir auprès d'une population protestante déplacée, en l'occurrence des Alsaciens, qui vont en quelques jours, en trois jours exactement, être évacués de la zone de guerre entre la ligne Maginot et la frontière allemande. Il y a notamment la ville de Strasbourg qui se trouvait là, et qui tous les villages et la ville de Strasbourg vont être évacués en trois jours. Donc ces personnes se retrouvent sur la route et vont être amenées en particulier dans le sud de la France et dans le sud-ouest, accueillies par les populations, par plus ou moins par l'État, et plus ou moins bien, et à ce moment-là, ces mouvements-là se disent on va aider nos frères et sœurs protestants, hein, c'est vraiment une idée religieuse au départ, dans ce contexte difficile. Puisque une partie de cette population va être quand même, si beaucoup de populations locales vont les accueillir cordialement, il y a un problème qui va rapidement se poser, c'est le problème de la langue, puisqu'ils parlent alsacien, et que ça a tendance à ressembler fâcheusement à l'allemand, ce qui n'était pas forcément très bon à ce moment-là, et donc il va y avoir quand même des situations assez conflictuelles. Donc ces mouvements s'organisent, interviennent auprès de ces personnes pour les aider, trouver du travail, etc. Et très rapidement, on entre dans une phase où les premières arrestations d'opposants politiques, d'étrangers, de tziganes s'organisent, et c'est une période où on voit émerger dans beaucoup de lieux dans le sud-ouest des camps d'internement administratif où on est enfermé tout un tas de personnes. Et là, on franchit un cap au niveau de cette association, c'est-à-dire que les personnes qui s'étaient mobilisées sur cette réflexion-là entrent dans une réflexion beaucoup plus, j'allais dire politique, mais à l'époque c'est plus de solidarité, en disant on ne peut pas, l'État ne peut pas se donner la permission à un moment donné de priver de liberté des personnes parce qu'elles ont une opinion politique différente, parce qu'elles ont une origine différente. Voilà. Donc la CIMAD va intervenir en fait dans ces camps d'enfermement, avec des équipiers qui vont intervenir pour aider les personnes et surtout pour témoigner de ce qui s'y passe. Parce qu'à l'époque, on voit ces lieux qui poussent, on voit des miradors. Je suis intervenu il n'y a pas très longtemps à Gaillac, et c'est intéressant de voir que très peu de personnes savent que le bout de truc en ciment qu'ils voient de l'autre côté du Tarn, c'est un mirador du camp de Brenz qui s'est créé en 1941, un camp de femmes. Et aujourd'hui, on ignore encore toute cette histoire de l'enfermement. Et qu'un rapport direct avec les centres de rétention, même si le contexte est différent. Donc, une volonté de témoignage de ce qui se passe dans ces lieux de privation de liberté, sans aucun contrôle judiciaire, de juge, etc. On est dans un contexte de guerre. Et donc, il y a ces pratiques qui se développent. Donc, la CIMAD y intervient. Et après, avec on avance un peu dans le temps, et les premiers placements des populations juives, des personnes à qui on enlève la nationalité française, notamment, je pense, à toute une partie de jeunes communistes à Toulouse qu'on déchoit de la nationalité et qu'on va enfermer dans ces camps-là, et va commencer à organiser des filières d'évasion, notamment de jeunes enfants vers le Chambon-sur-Lignon, puis dans la Loire, puis vers la Suisse. Donc, on voit une évolution, au départ, intervention très religieuse, puis qui vient vers ce qu'on qualifie de solidarité active et de témoignage, et politique, donc, évidemment. Ensuite, la CIMAD va évoluer en fonction des contextes. Hein. Fin de la guerre, elle va œuvrer avec d'autres associations pour la réconciliation franco-allemande, œuvrer auprès des peuples qui luttent dans le cadre des luttes pour la décolonisation, avec notamment tout un travail dans les camps, encore une fois, les camps d'internement en Algérie, les camps d'opposants, avec une intervention directe dans ces lieux-là. Et puis, dans les années, fin des années 60, début des années 70, toute une intervention auprès de l'accueil des réfugiés, puisque c'est le début de l'asile politique en France. La Convention de Genève est ratifiée en 51, transcrite dans le droit français en 52, et donc il y a les premiers réfugiés qui arrivent, donc des dictatures d'extrême droite d'Amérique latine, puis des dictatures communistes de l'Est, donc un travail d'accueil de ces réfugiés. Et là, je passe rapidement, hein, on pourra revenir si ça vous intéresse sur ces périodes-là, mais avec un changement assez important au début des années 80, fin des années 70, début des années 80, où l'association va décider, alors qu'on est dans un contexte de fermeture des frontières, de remise en cause de l'accès au marché du travail des étrangers, du regroupement familial, des étrangers qui travaillent là depuis des dizaines d'années, à qui on commence à interdire de faire venir leur famille, de jouer d'une vie familiale normale. Et là, l'association a décidé de s'emparer s'emparer de l'outil juridique, et donc de se spécialiser d'une certaine manière dans le droit des étrangers et dans le droit administratif pour conseiller les personnes et essayer de faire évoluer ce droit tout en gardant cette volonté de témoignage. C'est-à-dire en accueillant les personnes et en essayant de témoigner ensuite du décalage qui pourrait exister et qui existe de fait entre l'affichage politique et les ambitions politiques des gouvernements d'alors, qu'on pourrait transcrire à aujourd'hui d'ailleurs, et de la réalité et de l'impact de ces politiques sur les personnes, individuellement ou collectivement, mais en tout cas sur les personnes. Donc un travail qui va se développer en organisant par des permanences d'accueil qui ont encore lieu aujourd'hui pour aider les personnes, les accompagner, les renseigner sur ce droit de plus en plus complexe. Et c'est aussi le moment, le début des années 80, où le scandale de l'enfermement des étrangers apparaît au plein jour avec la découverte du hangar d'Arenc dans le port de Marseille. Certains d'entre vous ont sûrement connu cette époque mieux que moi, parce que j'avais 6 ans à l'époque. Mais c'est une période où on découvre que, hors de tout cadre légal, l'État, à savoir la préfecture des Bouches-du-Rhône, enferme des centaines d'étrangers, au motif qu'ils n'auraient pas le bon papier, dans un hangar devant lequel s'arrêtent des bateaux, et des policiers vont les faire entrer de force dans ces bateaux, direction l'Algérie, la Tunisie, peu importe, parfois des pays dans lesquels les personnes n'ont même pas la nationalité, etc. Pour répondre à cette situation de crise, le gouvernement socialiste d'alors décide, pour clarifier les choses, de créer des centres de rétention administrative. C'est une réponse. On formalise l'enfermement d'étrangers. Alors c'est censé être une situation exceptionnelle. Exceptionnellement, l'État, à cette période, pourra enfermer des étrangers qu'il estime devoir reconduire à la frontière. s'ils pensent qu'ils vont devoir fuir, etc. Et c'est vrai qu'à l'époque, et pendant 3-4 ans, ça va rester assez exceptionnel, puisque ce sera quelques centaines, mais c'est déjà sûrement trop, on aura sûrement ce débat tout à l'heure, vont être enfermés puis éloignés. Quelques centaines, aujourd'hui on est à une vingtaine de milliers, une trentaine de milliers. On ne compte évidemment pas Mayotte ni la Guyane là-dedans, puisque ça doublerait, voire triplerait les chiffres. Donc c'est le début de la rétention administrative, et là, c'est pour ça que je faisais un petit laïus sur l'histoire de la CIMADE. La CIMADE est contactée pour savoir si elle est d'accord pour signer une convention avec le ministère des Affaires sociales pour intervenir dans ces lieux-là. Et la CIMADE, sous condition, décide que si ces conditions sont acceptées, elle interviendra. Ces conditions étant acceptées, à savoir qu'elle ait une liberté totale d'expression et de témoignage sur ce qui se passe, elle intervient donc, et c'est le début de l'intervention de la CIMADE dans ces lieux-là, qui va durer jusqu'en 2008, date à laquelle on va passer d'une intervention conventionnée à un marché public ouvert à la concurrence, comme on peut en connaître dans tout un tas de domaines, et dont on connaît déjà le schéma, déjà dans le domaine social, hein, puisque déjà une dizaine d'années auparavant, au milieu des années 90, c'est le marché public des centres d'accueil pour demandeurs d'asile qui s'était ouvert, tout un tas de choses qui se sont développées, et on voit là déjà, c'est un autre débat, mais on pourra peut-être l'aborder, l'évolution des relations entre l'État et les associations, la vision qu'a l'État des associations, loi 1901, qui pouvait être porteuse de projets et qu'on utilise plutôt aujourd'hui, qu'on voudrait utiliser en tout cas, comme des prestataires de services. Fin de la parenthèse un peu longue. 2008, ouverture en marché public, et donc, long combat juridique sur lequel on pourra revenir, puisque la CIMADE estimait qu'on ne pouvait pas faire un marché... cette intervention, qu'elle n'avait absolument pas vocation à intervenir seule si d'autres voulaient intervenir, mais que ça devait être en partenariat et non pas dans un cadre concurrentiel avec les dérives qu'on pourrait voir. Parce que la dérive, c'est laquelle? Pourquoi Hortefeux, en 2008, crée un marché public de la rétention? C'est qu'il se rend compte que c'est le début des objectifs chiffrés, hein, des quotas d'expulsion, etc. Et on se rend compte en regardant les rapports statistiques que fait la CIMADE à la fin de chaque année, elle fait un rapport statistique et ensuite très critique de la manière dont c'est mené, que plus de 50% des personnes placées dans ces lieux-là sont libérées du fait de l'intervention de la CIMADE, des liens avec les avocats, etc., etc. Donc ça lui a pas pris du jour au lendemain à Hortefeux. Il y a une volonté très claire de dire on va essayer de mettre une concurrence, de créer un marché. Et à terme, on le verra très bientôt, peut-être redonner le marché au plus offrant et à celui qui fera peut-être sortir le moins de personnes. Pour le moment, ce n'est pas le cas, mais en tout cas, l'objectif, il est clair. En parallèle à cela, donc, la CIMADE, c'est environ 80 salariés aujourd'hui, 3000 bénévoles. Donc, c'est essentiellement des bénévoles qui s'organisent au quotidien dans différents lieux assurer des permanences, renseigner les personnes, les accompagner en préfecture, faire des recours devant les tribunaux, etc., etc. Et organiser des actions de sensibilisation, répondre à des invitations comme ce soir, essayer de discuter de cette situation, parce qu'encore une fois, mais je pense que beaucoup d'entre vous le savent évidemment, il y a un vrai décalage entre la politique d'affichage relative à l'immigration et la réalité des situations des migrants, qui fait qu'on est toujours dans l'ordre du fantasme, de la peur, de la crainte, et que on ne règle absolument pas les vraies questions qui vont être évidemment bien plus complexes à résoudre que de renvoyer une personne qu'on va considérer comme sans papier chez elle ou vers un pays dont on estime qu'elle a la nationalité, à savoir... Mais évidemment, la problématique des relations nord-sud, la problématique des pillages de matières premières en Afrique, ou pas que de matières premières d'ailleurs, etc., etc. C'est sûr que c'est bien plus complexe de se poser la question à ce niveau-là que d'estimer, de dire, si je renvoie les personnes, si je restreins leurs droits, eh bien elles ne viendront pas. manque de peau, elles viennent, mais on les place en situation, pour le coup, d'irrégularité de fait. Puisque, à part quelques périodes depuis une trentaine d'années, mais de manière générale, et là, quels que soient les gouvernements, en fait, ces politiques obéissent à des fantasmes, et on en arrive donc à une restriction des droits constante, pour en arriver au projet de loi Besson, qui n'est pas une fin en soi d'ailleurs, mais qui est étudié en ce moment en deuxième lecture au Sénat, où on va en fait enlever tout critère de régularisation des personnes et instaurer en droit ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire. C'est-à-dire que le représentant de l'État, localement, partout en France, décidera de qui il veut régulariser ou de qui il ne veut pas régulariser. Aujourd'hui, les critères de régularisation, ils existent pour 2-3 catégories de personnes. Très limitées. Pour le reste, le préfet a un total pouvoir d'appréciation, total entre guillemets, puisqu'en fait, il a au-dessus de lui le ministre qui lui dit « Tu me donneras tant de cartes de travailleurs cette année, tant de cartes de vie privée et familiale, tant de cartes, etc., etc. » C'est clairement comme ça que ça se passe aujourd'hui. Et en parallèle, la France est bien embêtée parce qu'elle est signataire de conventions internationales majeures comme la Convention de Genève qui régit le droit d'asile, donc elle est quand même obligée d'accueillir les demandeurs d'asile. Et donc elle va mettre en œuvre tout un tas de choses, mais ça se décide maintenant au niveau européen, pour empêcher ces demandeurs d'asile qui ont des droits de fait liés à la Convention de Genève pour venir s'installer en France et demander une protection. Elle va mettre en œuvre tout un tas de dispositifs, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour lancer des pistes, tout un tas de dispositifs pour empêcher ces personnes d'accéder à la procédure. Comme ça, s'ils n'accèdent pas à la procédure, ce ne sont pas des demandeurs d'asile et donc je n'ai pas à les prendre en charge. Donc voilà le contexte dans lequel on est aujourd'hui. Sachant que le témoignage de ce qui se passe est d'autant plus important qu'on voit quand même depuis quelques années une évolution dans les fantasmes liés aux migrations, puisqu'on a très longtemps été dans l'étranger qui vient voler notre travail, l'étranger qui vient prendre notre place, le chômage c'est la faute aux immigrés, ils viennent et puis ils touchent la sécu, etc., etc. On était dans ce discours-là et puis on voit quand même une évolution. Depuis quelques années, c'est plus l'étranger, c'est pas sa faute, mais comme il n'est pas comme nous, il vient troubler l'ordre social, il vient mettre en péril la cohérence nationale, notre identité. Je croyais qu'on ne captait pas, excusez-moi, je vais essayer d'ouvrir. Notre identité, etc. Et on voit que cette évolution des débats, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, les témoignages, que ce soit de la CIMAD, mais de bien d'autres associations ou collectifs de personnes, comme il en existe à Rodez, hein, le collectif de soutien des sans-papiers de Rodez, avec la Ligue des droits de l'homme, etc., qui fait un travail en ce sens aussi. Bon, cet exemple, parce que c'est à côté, mais il y en a un peu partout, les réseaux Éducation sans frontières, hein, que vous connaissez sûrement. C'est d'autant plus important dans cette période où voilà, ce glissement quand même fait assez froid dans le dos quand on le remet en perspective par rapport à cette histoire-là et quand on le met en perspective avec un élément, je terminerai là-dessus parce que je crois que je suis un peu long, mais un élément majeur du projet de loi Besson qui est, quand je vais vous le dire d'emblée comme ça, peut-être ne parle pas trop, mais le recul du moment d'intervention du juge des libertés et de la détention quand une personne étrangère est placée justement en centre de rétention administrative. Donc les centres de rétention, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, ces lieux qui étaient 5-6 en 84, une trentaine aujourd'hui, où on place les étrangers qu'on veut éloigner. Aujourd'hui, la durée de rétention est à 32 jours, mais c'est le juge des libertés et de la détention qui va décider si l'État peut effectivement maintenir privé de liberté une personne, et ça, elle va le faire au bout de 48 heures. D'accord ? Une personne est placée en rétention, le préfet, donc l'État, peut la priver de liberté pendant 48 heures sans problème, mais ensuite, C'est le juge des libertés de la détention, le garant des libertés individuelles en France. Hein, c'est pas pour rien qu'en France, il y a un système qui a été instauré de séparation des pouvoirs, entre notamment le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire. C'est qu'à un moment donné, ces juges-là vont pouvoir estimer que l'État abuse ou n'abuse pas, mais en tout cas, il intervient très rapidement, au bout de 48 heures. Dans le projet de loi Besson, on veut faire reculer cette intervention à 7 jours, en seconde lecture, là, à 5 jours. Alors, pourquoi est-ce si important ? Ben, il faut le mettre en rapport avec la réalité des chiffres. La réalité des chiffres, c'est que si la rétention peut être prolongée par un juge, pendant 32 jours maximum, 85% des expulsions ont lieu dans les 6 premiers jours. Ça veut dire que si la personne n'est pas expulsée dans les premiers jours, alors c'est essentiellement des raisons de convention entre États, est-ce que l'État est d'accord pour accueillir la personne dans le pays vers lequel on veut la renvoyer. C'est dans les 6 premiers jours. Après, ça va être de la punition, purement et simplement. Mais on voit bien là, à ce moment-là, l'enjeu de faire reculer l'intervention du juge des libertés à 5 ou 7 jours. C'est-à-dire que ce juge des libertés qui va regarder comment s'est fait interpeller la personne, est-ce qu'on l'a interpellé au faciès, parce que, vous savez, c'est illégal. Donc on trouve des subterfuges, mais c'est illégal. Mais si le juge intervient au bout de 5 jours que la personne est interpellée dans les 3 premiers jours, c'est la porte ouverte à tous les abus, à prendre la première personne qui n'a pas la bonne couleur de peau dans la rue, de vérifier qu'elle n'a pas de papier, et de l'expulser, on aura beau au jeu ensuite de passer devant le juge des libertés, la personne elle sera déjà bien loin. Et ça, quand même, ça interroge sur les pratiques, et sur le sens, et sur la dérive. Je ne suis pas dans le délire de l'État policier, je suis plutôt du côté de l'État de droit, et là, en l'occurrence, je n'ai pas l'impression de reconnaître un État de droit quand on essaie de faire reculer l'intervention du judiciaire pour pouvoir expulser tranquille face à tous les abus. Je ne sais pas si c'était très clair, mais c'était pour montrer les enjeux dans quelle évolution on était. Ça pose pas mal de questions, mais je ne veux pas trop monopoliser la parole, et peut-être qu'on laisser la parole à Mohamed pour...
Mohamed Silla.
Je m'appelle Silla Mohamed, ex-sans-papier, gréviste de la faim en 2003. Nous avons constaté qu'être sans-papier en France, c'est toute une galère. Déjà, on nous considère comme des sans-papiers. Non, nous ne sommes pas des sans-papiers, parce que nous avons nos propres cartes d'identité nationaux. Mais seulement, on nous considère ici comme sans-papiers. Mais sans-papiers, pourquoi ? C'est sans titre de séjour. On nous considère comme des sans-papiers. Donc, quand on vient en France, c'est presque dans toute l'Europe. Maintenant, aujourd'hui, quand on vient en Europe, c'est soit cette personne il vient en Europe pour nous piquer des jobs, ou cette couleur, elle a la peau, ou les flics, ils sont là tous les jours. Vous faites une demande d'asile auprès de l'OFPRA, vous restez quelque temps, l'OFPRA, vous épuisez vos droits, vous repartez en recours, vous épuisez vos droits, vous demandez un titre de séjour auprès de la préfecture. C'est souvent, on vous met des arrêtés de reconduite à la frontière. Donc, vous restez dans la clandestinité. Vous êtes obligé de vous mettre dans la clandestinité. Parce que si vous voyez les flics, vous savez tout de suite que quand vous les rencontrez, c'est tout de suite. Vous avez les chaînes au bras. Donc, ces flics-là, c'est bon. Au moins, nous, on était sans papier, on n'osait pas sortir. Partout. On passait presque toute la journée foiré dans la maison. Vous imaginez, quand on a une femme et un gosse dans un taudis, et que cet enfant ne peut pas sortir et aller se balader, c'est un problème. Tandis que la liberté, quand on dit la liberté en France, oui, bien sûr, il y a la liberté. On cherche tous la liberté. Bon, on part de chez nous, ce n'est pas un problème économique qu'il nous faut partir de chez nous. La majeure partie vient D'autres ils ont des problèmes économiques, d'autres c'est la guerre qui les met, il faut partir. Quant à moi, bon, je ne suis pas parti pour un problème économique. Je suis resté chez moi pendant 31 ans. Je ne suis pas parti. Né et grandi, et j'ai tout fait là-bas. C'est à 31 ans que je suis parti de chez moi. S'il n'y avait pas la guerre chez moi, je n'allais pas partir de tout. Mais aujourd'hui, je suis là, je suis en France. J'ai la famille en France. J'ai des enfants qui sont nés en France et qui doivent rester français. Moi, j'ai un jour ou l'autre, je peux rentrer chez moi. Mais, et par des trucs, on monopolise surtout nous, les Noirs. Parce que partout où on passe, avant, il y avait moins de dédits sur les Noirs. Mais aujourd'hui, on les rencontre partout. On dit, ouais, ils sont là, ce sont ces immigrés, ils nous piquent nos jobs. Et quand on est encore sans papier, vous voulez avoir des papiers, vous déposez votre candidature à la préfecture, on vous demande un certificat d'embauche. Et bien, quel est le patron qui va donner un certificat d'embauche à un clandestin qui n'a même pas de papier? Aucun patron ne voudra le faire. Parce que si le patron vous le faites, hein, vous êtes obligé de lui payer des sous. Vous qui ne travaillez pas, vous n'avez rien. Comment vous voulez payer un patron ou de haut noir pour qu'il vous fasse une promesse d'embauche? C'est quasi impossible. Donc la préfecture, elle jouera sur ça, jusqu'à ce qu'on vous dit un jour, voilà, on vous envoie une lettre à l'état d'expulsion. Vous avez 30 jours pour quitter le pays. Et comment quitter le pays? Ou partir? Ou vous voulez traîner avec vos enfants et votre famille partir? Où? Ça devient de plus en plus dur. On vous donne des papiers grâce au collectif des sans-papiers, au bon sens des gens qui soutiennent ces sans-papiers. Et la majeure partie arrive à avoir des papiers. Mais le problème, on a les papiers. On a les papiers. Vous allez vous inscrire au Pôle emploi. Vous vous inscrivez au Pôle emploi. Donc, le problème aujourd'hui, tous les patrons licencient. Moi, dans mon cas, j'ai travaillé pendant 3 ans dans une entreprise. L'entreprise, elle n'a plus les sous pour me payer. Ils sont obligés, à la fin de mon contrat, de me laisser partir. Même s'ils ont, ils ont besoin de me reprendre, mais comment? Qui c'est qui va les payer? Le Pôle emploi, les aides, le Conseil général vont leur dire on vous donne tant par mois pendant 12 mois. Hein, vous donnez tant par mois pendant 12 mois. Et si cette personne doit être embauchée pendant 20 ans? Et que le patron n'a pas les moyens de payer cette personne. Il est obligé de s'en débarrasser. Donc, on va bien, on reste là. On est foiré dans les maisons. On cherche du travail. On trouve 1 ou 2 jours de boulot. Une semaine de boulot sur 30. Vous imaginez, on a des familles à nourrir. Des enfants à habiller. Ça devient de plus en plus, plus. Heureusement qu'il y a encore le bon Dieu. Et il y a des personnes aussi qui s'occupent bien de ces sans-papiers, qui les soutiennent moralement et financièrement. Sinon, la majeure partie, c'est les suicidés. Vous imaginez, ça ne va pas chez vous. Où vous êtes venu, ça ne va pas là-bas. Qu'allez-vous faire?
C'est la même ici aussi, quoi. On est même dans le même malheur, quoi. On ne touche qu'une thune, quoi, ici. C'est rien, quoi.
Eh oui. Mais quand il y a du boulot, tout le monde, ben, on est en bonne santé. On a la force de travailler. Trouvez-nous du boulot. On est prêt à faire n'importe quoi pour bosser. Mais aujourd'hui, ben, si vous n'êtes pas qualifié, ou vous n'avez pas une expérience de 1 à 2 ans dans une entreprise, vous allez voir le patron. Il vous dira non. J'ai besoin de quelqu'un qui est compétent.
Quelle est la solution, quoi?
La solution, la solution, nous, on est tout le temps en train de chercher la solution.
Nous aussi.
Oui. Tout le temps. Parce que nous sommes prêts à faire n'importe quoi pour trouver une solution. N'importe quel boulot qu'on nous donne, on est prêt à le prendre. Parce que si on ne le prend pas pour quelque chose, on est obligé de le prendre pour subvenir aux besoins de nos enfants, à nos besoins à nous aussi. Là, franchement, aujourd'hui, ça devient de plus en plus de la galère. Si, pas pour nous. Nous, on est encore au mieux. Mais ceux qui n'ont pas les papiers.
C'est extrêmement difficile pour l'agriculture.
Pour les gens qui n'ont pas de papiers. Qui ne peuvent ni sortir, aller chercher du boulot. Ils vont sortir des fois, aller chercher du travail au noir. Mmh. Les flics, ils font une descente.
Ou tu vas te faire tricarder de façon de base, quoi.
Quand les flics, ils font une descente, et ils se disent, ouais, là, vous faites ça ou je me suicide. C'est ce qui revient dans toutes les têtes. Vous voulez me ramener chez moi, vous m'amenez au centre de rétention. Heureusement qu'il y a la CIMAD et autres associations qui sont là, la CIMAD, pour gérer ces sans-papiers. Sinon, ça serait une catastrophe pour les sans-papiers. La raison pour laquelle nous sommes venus là aujourd'hui, pour vous expliquer quelles sont les galères des sans-papiers, pourquoi sans-papiers, pourquoi être sans-papiers et après les papiers.
Pourquoi être sans-papiers d'ailleurs?
Nous, c'est pas parce que nous ne sommes pas des sans-papiers.
Ils sont pas des sans-papiers, ils attendent des gens comme ça.
Nous ne sommes pas des sans-papiers. Nous avons nos propres idées.
Pourquoi vous ne pouvez pas avoir des papiers pour rien?
Pourquoi nous ne pouvons pas avoir des papiers? C'est là le problème.
On va peut-être lancer la discussion après. Donc ce témoignage paraissait important. Oui.
Si Romo, il peut juste dire combien de temps t'as mis pour avoir les papiers.
Voilà, oh là là. Un détail qui a son importance.
Tu n'as pas dit de quel pays tu étais aussi.
Voilà. Je suis de la nationalité sierra-léonaise. Et moi, personnellement, je suis parti de chez moi parce qu'il y a eu la guerre. S'il n'y avait pas eu la guerre, je n'allais pas quitter mon beau pays.
Mais t'as mis combien de temps t'es
resté, là, et je suis resté en France sans papiers pendant 5 ans. Vous imaginez 5 ans. Une année, être sans papier déjà. C'est beaucoup pour quelqu'un. Et surtout quelqu'un qui reste pendant 5 ans sans papier. S'il n'a pas les cervelles, il sera obligé d'aller faire des braquages. Il va se mettre dans le banditisme. Et il va faire il va à Sainte-Paris. Moi déjà, je suis parti à Sainte-Paris. Ah oui. Déjà, on m'a obligé en 2001 pour aller à Sainte-Paris. Ah ouais, parce que j'en pouvais plus.
Vous avez resté à Sainte-Paris ?
Hein ?
Combien de temps ?
Je suis resté que 15 minutes, un quart d'heure. Un quart d'heure, je ne pouvais pas supporter. D'habitude, je suis un homme, quelqu'un de très calme. Bon, je peux me gérer moi-même et gérer la petite famille qui est dont j'ai. Mais quand on est sans papier, on explose d'un jour à l'autre. Surtout, vous passez une année sans papier. Une année après, vous avez les papiers, bon, ça vous moralise. Mais vous passez 5 ans. Vous savez que vous avez des enfants à nourrir, une femme à habiller des enfants, et que vous n'avez aucune possibilité de donner un franc à ces enfants, vous êtes obligé de prendre la tête. Vous allez voir les assistantes sociaux, les collectifs, et vous passez partout.
Vous avez eu du travail pendant ces 5 ans?
Mais pas du tout.
Pas du tout.
Oui, mais il y a des employeurs.
Parce qu'il y a des employeurs qui ne se privent pas de s'occuper des gens sans papier, je suppose.
Pas du tout. Pas du tout. On a du travail, c'est quand on part de Rodez Et on pique les trains pour aller dans les pommes pour aller faire du boulot noir.
C'est saisonnier à l'école.
Mais c'est pour aller faire des saisonniers à l'école. Sans ça, on ne peut rien faire. Parce qu'au moins là-bas, quand vous partez, même si vous n'avez pas de papier, ils ont pitié de vous. C'est des personnes qui n'ont pas de papier, ils cherchent juste à souvenir à leurs besoins. Être sans papier pendant une année, ça va. Mais 5 ans. 5 ans, on vous considère comme des sans-papiers, c'est une catastrophe.
En même temps, 5 ans, t'es français, quoi. 5 ans sans papier, ça va être si bien dur, quoi.
Non.
Comment tu t'es débrouillé, quoi, les soirées-là, quoi.
Comment je me suis débrouillé? Grâce aux associations. Ouais. Grâce aux associations qui m'aidaient et aux assistantes sociaux et à mon courage qui me faisait partir de Rodez jusqu'à Montauban et à Cassel-Sarrazin pour aller faire des cueillettes. Que je subvenais à mes besoins. Je ne pouvais rien faire pour ma famille, mais le peu que j'ai gagné, je pouvais au moins pour leur donner à manger.
Et maintenant,
il y a 4 mois, je suis, 5 mois, je suis encore au chômage.
Il y a eu un gros combat, quoi.
Oui. Grâce aux associations, les collectifs des sans-papiers de Rodez et toutes les bonnes volontés qui nous soutiennent.
Moi, je voulais vous poser une question. Est-ce que dans ce processus, vous avez dû faire une visite médicale? Et cette visite médicale, combien vous l'avez payée? Ça m'intéresse de l'entendre.
Quand on nous a accordé les papiers, on est obligé de passer par l'OMI.
L'Office d'immigration internationale.
Ça veut dire l'Office d'immigration internationale, OMI. Et une personne, en ce temps où nous avions été régularisés, c'était 200 euros par personne. 220 euros.
À Paris.
C'est 350 euros
aujourd'hui. Par personne. Et aujourd'hui, ça a presque triplé et doublé. Parce que si vous n'avez pas 350 euros aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir cette visite.
Autant que c'est pas si mal, les 350 euros. Il y a des frais de chancellerie, il y a...
On peut boire un coup et on continue après. Vous retrouverez Momo et Pierre après.